Je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. J'ai eu le privilège de faire un voyage au Canada, surtout au Québec, à Montréal, où j'ai de la famille. Et j'ai pu visiter deux églises. L'une, une église baptiste dont le pasteur a été mon collègue en théologie. On a fait des études théologiques ensemble. Et ça faisait pas mal d'années qu'on ne se voyait pas. Donc c'était l'occasion de le retrouver, de retrouver son église et des amis avec lesquels on a vécu ensemble en Angola. Et le deuxième dimanche, avec mon épouse, on s'est dit on va essayer d'écouter le pasteur Claude Wood, que peut-être vous connaissez par Top Chrétien, l'un des pasteurs qui présente souvent ses prédications dans ce site chrétien. Nous apprécions beaucoup ses prédications. On s'est dit, puisqu'on est dans sa ville, on va essayer d'aller dans son église. D'abord, on a eu quelques difficultés à trouver l'église parce que l'église se trouve dans une zone industrielle au bord de l'autoroute. Mais comme la sortie, il y avait des travaux, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien Montréal, ce n'était pas facile. Mais finalement, on a trouvé l'église et... Nous étions étonnés de voir des centaines et des centaines de voitures, de gens qui venaient à l'église, des dizaines, même des centaines de personnes qui étaient sur le parking pour indiquer une place, chacun avait sa place, des dizaines de personnes à l'accueil. Il faut dire que l'accueil de cette église, c'est quatre salles comme celle-ci, n'est-ce pas? Nous sommes entrés dans cette église, c'est vrai, avec quelques interrogations, parce qu'on se dit, mais des grandes églises, bon, on ne connaît pas trop, qu'est-ce que ça va donner. Et avec mon épouse, à la fin, je pense qu'on a compris pourquoi il y a des milliers de personnes qui viennent dans cette église, et surtout beaucoup de jeunes couples qui sont là, le bras dessous, n'est-ce pas, pour louer le Seigneur, parce qu'on a vraiment senti la présence de Dieu au milieu de ce peuple-là. Et on a été tellement bénis lors du premier culte qu'on est resté pour le deuxième. On n'a pas voulu partir et donc on est sorti de l'église autour de 14 heures parce qu'on s'est bien senti. Et la prédication du pasteur Claude Wood, qui est l'un des pasteurs de l'église, ils sont, je crois, 6 ou 7 pasteurs dans cette église, a duré 1h05. Alors je vous rassure, moi je ne suis pas prédicateur comme lui, hein. J'ai encore beaucoup à apprendre, je vais essayer de faire plus court. Mais on n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. Et pendant la prédication, il y avait des phrases tellement fortes que les gens... manifestaient la joie d'écouter la parole de Dieu. C'était vraiment quelque chose de très fort qu'on a vécu. Alors ce matin, je voudrais reprendre... ma série de prédications sur le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Et nous allons lire donc au chapitre 4, à partir du verset 11. Je lis dans la traduction la Bible dite du semeur, la Bible du semeur. Et donc dans ce passage, l'apôtre Paul dit ceci: « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles entraînés les autres dans l'erreur. Au contraire, en vivant selon la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Lors du dernier message sur ce passage, nous avons vu pourquoi le Seigneur a donné des serviteurs de la parole à son Église. Et nous avons vu quelle était la finalité donc, de leur ministère, être des coachs pour l'Église, être les coachs de leurs frères et sœurs pour les accompagner et les encourager dans leur service pour le Seigneur, les aider à développer leur plein potentiel dans l'œuvre du Seigneur. Ce matin, j'aimerais que nous nous pensions sur les objectifs à atteindre par l'Église. Les objectifs à atteindre. Objectifs que l'apôtre Paul mentionne très, très clairement dans ce passage. Car il faut dire que pour l'apôtre Paul, même s'il vient de parler des ministres de la parole, n'est-ce pas, pour l'apôtre Paul, la mise en pratique des dons que Dieu accorde aux uns et aux autres est certes essentielle dans l'Église. La présence de ses serviteurs, quels qu'ils soient, et surtout les serviteurs de la parole, est fondamentale au sein de l'Église. Mais pour lui, on le voit très bien ici et dans ses lettres, le travail à faire est plus important que ceux qui le font. Le travail à faire est plus important que ceux qui le font. Le dernier venu peut être plus efficace que ceux qui sont les plus en vue dans l'Église. L'avortant qu'était Paul, comme il se désigne lui-même, n'est-ce pas, dans ses lettres, a fait au moins autant à lui seul que toutes ces colonnes de l'Église de l'époque, n'est-ce pas, que sont Pierre, Jacques et Jean. Et pourtant, l'apôtre Paul ne se vante pas. Il ne se vante pas d'avoir été utilisé par le Seigneur dans son œuvre. Et de quelle manière, n'est-ce pas? Il ne se vante pas. Il ne cesse de rendre gloire à Dieu qui fait croître, dit-il, qui fait croître ce que ses serviteurs entreprennent. Ça vaut la peine de citer ce passage de 1 Corinthiens où il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, dit-il. L'apôtre Paul dit que Christ a donné des dons et des ministères à son Église en vue de trois objectifs essentiels. On a déjà touché un petit peu cet aspect la dernière fois, mais je voudrais développer davantage. Et ces trois objectifs essentiels sont le service, l'édification du corps de Christ et la croissance spirituelle des chrétiens. Le service, l'édification du corps de Christ et la croissance spirituelle des chrétiens. Autrement dit, les divers dons et ministères que le Seigneur accorde à son Église sont donnés avec une finalité bien précise, que ses membres se tourne hein, vers la diaconie, c'est le mot que l'apôtre Paul emploie ici dans le texte, la diaconie, hein, c'est-à-dire vers l'action, vers le service du prochain, parce que c'est ça, la diaconie, n'est-ce pas, le service du prochain, deux, qu'il participe activement, effectivement, efficacement à l'édification de l'Église du Christ, là où elle est, et troisièmement, qu'il grandisse en maturité chrétienne, qu'il grandisse en maturité chrétienne. Ce monde perdu a besoin qu'on agisse pour lui, n'est-ce pas? Il a vraiment besoin qu'on agisse pour lui. Et qui d'autre peut agir pour ce monde perdu et égaré si ce n'est l'Église de Jésus-Christ dans le monde? L'Église de Jésus-Christ qui est le corps de Christ, comme dit la parole, n'est-ce pas? Le corps de Christ, c'est-à-dire la représentation du Christ au milieu des hommes et des nations. C'est l'Église qui doit rendre visible le Christ, n'est-ce pas, aux divers peuples de la terre. Pour ce faire, l'Église doit être une communauté de gens unis dans la foi et dans un service commun au nom du Christ. C'est grâce à son activité dans ce monde en faveur de l'humanité à son service que l'Église manifeste de manière visible le Christ sur la terre et l'intention divine à l'égard des hommes. C'est aussi grâce à son service dans le monde que l'Église se fortifie intérieurement et qu'elle s'édifie en tant que corps de Christ. J'aimerais dire tout ça d'une autre manière. Je dirais que l'Église doit être une Église qui, selon ce que le Christ a dit à propos, pour résumer, la loi et les prophètes, n'est-ce pas, doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Les deux choses ensemble, n'est-ce pas? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. C'est cela qui compte. C'est cela le plus important. Et si vous me demandez de dire un mot, en une phrase, quelle doit être la mission de l'Église, quelle doit être sa vision, d'ailleurs, je serais d'accord qu'on mette cette phrase même sur le bulletin de l'Église, dans le bulletin de l'Église, pourquoi pas, sur la vitrine de l'Église. Notre vision en tant qu'Église, c'est de chercher à connaître et à aimer Dieu et le prochain. C'est de chercher à connaître et aimer Dieu et le prochain. Tout est là, tout est là. Et je trouve que c'est un bon mot d'ordre, n'est-ce pas, pour nos églises et pour notre Église. Tout est là. Et tout ce que nous faisons en tant qu'Église doit avoir comme motivation, n'est-ce pas, ce désir profond de chercher à connaître et à aimer Dieu et le prochain. L'apôtre Paul dit, afin que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction ou de l'édification du corps du Christ. L'image de l'édification et de la construction, l'apôtre Paul utilise à plusieurs reprises ici, dans cette lettre, et ailleurs, dans les autres lettres. Et ici, et notamment dans la première lettre aux Corinthiens, il dit que l'édification de l'Église doit servir de critère à l'utilité des dons spirituels. Pour que l'Église se développe, il faut donc que chaque membre exerce les dons qu'il a reçus du Seigneur en ayant à cœur l'édification de l'Église. L'édification de l'Église, c'est-à-dire l'édification de ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Ces dons sont si bénéfiques à la fois pour celui qui l'exerce, n'est-ce pas? Celui qui exerce, l'exerce de manière fidèle, n'est-ce pas? Mais aussi pour ceux envers qui il s'exerce. Et ils sont tellement efficaces, tellement bénéfiques, que l'Église, finalement, gagne, je dirais progressivement, en santé, en maturité, en qualité et même en quantité, en quantité, en nombre de personnes qui viennent se joindre à l'Église. Mais il faut que les dons restent donc au service des autres, au service de la communauté tout entière. Car, dit l'apôtre Paul, c'est pour l'édification de l'Église qu'ils ont été donnés. D'ailleurs, l'image de la construction, l'image de l'édification, nous oriente tout de suite vers des notions d'équilibre, n'est-ce pas, d'harmonie et d'unité qui apparaissent dans ce passage, dans les versets suivants. Il dit au verset 13, « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. » Et au verset 16, « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'il est en train de nous donner des points de repère pour évaluer l'édification d'une église. Il nous dit que l'édification de l'église est mesurée, en fait, par deux choses très importantes. Un, par l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et deux, par l'état d'adulte. Déjà au verset 3 de ce chapitre, il avait lancé un appel solennel à l'unité de l'Église, n'est-ce pas? Et efforcez-vous, dit-il, de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Et un peu plus loin, versets 4 à 6, il a expliqué ce que c'est que cette unité spirituelle, autour de quoi l'unité chrétienne doit être bâtie, les éléments essentiels sur lesquels nous devons construire l'unité de l'Église, les éléments de base d'une confession de foi commune. Il dit un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Nous avions dit, n'est-ce pas, lorsqu'on a commenté ce verset, que c'est dangereux d'abandonner l'un ou l'autre de ces éléments, de ces fondements de la foi chrétienne. C'est dangereux de le faire ou de laisser ouvrir des brèches qui risquent de mettre en danger ce que le Christ a voulu construire dans ce monde. C'est dangereux de le faire. La Bible nous a été donnée pour que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole qui vient de Dieu, la parole que Dieu nous a donnée. Elle nous a été donnée, je pourrais dire d'une autre manière, pour que nous croyions finalement tous la même chose, en tout cas en ce qui concerne l'essentiel de la foi chrétienne. D'où les appels incessants de la Bible à ce que nous restions attachés à l'enseignement des apôtres, à la saine doctrine, à la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Paul nous dit que c'est par une meilleure connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et par une foi plus profonde en lui que nous parviendrons à cette unité spirituelle tant souhaitée par le Seigneur de l'Église. C'est le Christ qui nous unit en raison de son œuvre sur la croix, en raison de ce qu'il a fait pour nous, en notre faveur. Et cette unité autour de sa personne et de son œuvre, l'unité de la foi et l'unité de ce que nous croyons, doit, selon l'apôtre Paul, tendre toujours vers la perfection. C'est le but fixé à l'Église. Cela veut dire, frères et sœurs, que nous devons donc chercher à connaître de mieux en mieux notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Car, comme dit l'apôtre Paul dans une autre lettre, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et finalement, c'est lui qui pourvoit aux besoins, à tous les besoins de son Église, car la parole nous dit que c'est lui le chef de l'Église. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage, je me suis dit que finalement, l'Ancien Testament avait déjà lié ces deux notions, n'est-ce pas, la foi et la connaissance. Dans l'Ancien Testament, les deux notions, croire et connaître, sont liées. Et par exemple, le prophète Osée avait déclaré « Mon peuple périt faute de connaissance ». Déjà dans l'Ancien Testament, l'ignorance de Dieu et de sa parole, de ses commandements, était considérée comme un péché, n'est-ce pas? Un péché qui finalement entraîne tous les autres. L'ignorance devient quelque chose de terrible. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul va dire au verset 17 à 19 de notre passage. Lorsqu'il parle de ceux qui ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux, dit-il. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Voilà ce que l'ignorance, la parole de Dieu fait. Au chapitre 1er, l'apôtre Paul avait déjà prié que Dieu nous donne par son esprit sagesse et révélation, je cite, qui nous fasse connaître Dieu. Sagesse et révélation qui nous fasse connaître Dieu. Et au chapitre 3, il demandait à Dieu de nous aider à connaître, je cite, « et à comprendre l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance ou toute intelligence selon notre traduction. » Cela veut dire, frères et sœurs, que tout dans l'Église doit être centré sur la foi et sur la connaissance du Seigneur. Tout dans l'Église doit être centré sur la foi et sur la connaissance du Seigneur. Si l'édification de l'Église est mesurée par l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, elle est aussi mesurée par la maturité chrétienne, nous dit-il. Au verset 13, « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. » La barre est mise très haut, n'est-ce pas? Très haut. Mais comme disait Cécilia, on est là pour avancer, pour marcher, pour courir même parfois, n'est-ce pas? Au chapitre 2, verset 15, Paul avait décrit l'Église comme la nouvelle humanité que Dieu est en train de créer. Vous imaginez, nous faisons partie de cette nouvelle humanité que Dieu est en train de créer pour vivre éternellement avec lui. Et ici, il dit que cette nouvelle humanité, qu'est l'Église, doit arriver à l'état d'homme, à l'état d'adulte, c'est-à-dire à la maturité, à la maturité. Et là, nous arrivons au troisième et grand objectif que le Seigneur veut pour son Église. Ce n'est pas simplement le service, l'édification du corps de Christ, l'Église, mais c'est aussi la croissance spirituelle des chrétiens. À plusieurs reprises, les auteurs bibliques nous avertissent du danger de rester au stade de l'enfance, de ne pas grandir. Et nous savons bien, n'est-ce pas, nous le savons par expérience, l'ennemi de nos âmes sait profiter de nos faiblesses, il sait profiter de toutes les situations pour nous abattre et pour détruire notre confiance dans le Seigneur, pour détruire notre foi. C'est avec tristesse que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ces termes, « Frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme à des petits-enfants dans la foi au Christ. » C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors parce que vous suivez toujours votre nature humaine. C'est avec consternation que l'auteur de la lettre aux Hébreux fait le même reproche. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. En fait, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'il faut absolument grandir dans la connaissance du Seigneur. Et pour expliquer la nécessité de grandir en Jésus-Christ, l'apôtre Paul utilise d'abord, au verset 14, quelques images saisissantes, n'est-ce pas, pour parler des dangers de l'immaturité. Bon, il a vécu ces choses dans sa vie, n'est-ce pas ? Une barque à la dérive, une barque en difficulté, des vagues et du vent, n'est-ce pas? Quand il dit, de cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. On pourrait dire que selon ce verset, finalement, les manifestations, les signes de l'immaturité, c'est quoi? C'est la gaminerie, si on peut dire comme ça, n'est-ce pas? L'infantilisme, c'est l'instabilité, c'est la naïveté, c'est la crédulité, c'est aussi la séduction, n'est-ce pas? Le manque de conviction, peut-être la soif de nouveauté, hein? C'est l'inconstance, c'est tout ça. C'est tout ça qui caractérise le fait de rester enfant en Christ. Les chrétiens qui se trouvent dans cette situation-là courent des risques, courent des dangers quant à leur foi. Jésus a averti ses disciples en leur disant qu'il y aurait des tricheurs dans le monde, des tricheurs de la foi. Il l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit, tricheurs en matière d'enseignement chrétien. Il leur a dit que plusieurs faux prophètes s'élèveraient et essaieraient de séduire même les chrétiens. connaissez sans doute ce fameux passage de Matthieu 24 où il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. » Et l'apôtre Paul a aussi mis en garde le jeune pasteur Timothée, n'est-ce pas, en lui disant « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Les chrétiens instables courent le risque de se laisser facilement tromper et de se laisser détourner de la parole de Dieu. Or, c'est celle-ci, la parole de Dieu, qui peut nous garder sur la route, sur le bon chemin. Je lisais quelque part qu'il y a que deux siècles après Calvin, les pasteurs protestants en Suisse, de la compagnie de Genève, avaient arrêté d'enseigner la parole de Dieu. Ils avaient arrêté d'enseigner la parole de Dieu afin d'éviter, disait-il, toute polémique. Et donc, ils ont interdit tout enseignement sur la divinité du Christ, sur le péché originel, sur la grâce, etc., etc. Sur les doctrines fondamentales du christianisme, sur la base du christianisme, pour arrêter toute polémique, disait-il. Et c'est à ce moment-là que Jean-Jacques Rousseau a pu écrire ceci à leur sujet, je cite, « On ne sait plus ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas. On ne sait même pas ce qu'ils font semblant de croire. » Voilà une condamnation très claire, n'est-ce pas, d'un christianisme qui ne sert à plus rien, d'un christianisme qui n'a plus que le nom et qui ne sert finalement à quoi ? À mettre des gens ensemble pour former une association, pour se faire plaisir ? Pour ne pas être ballotté et entraîné à tout vent de doctrine, pour ne plus être des gosses, des enfants dans la foi, nous avons besoin de grandir dans la foi et dans la connaissance du Seigneur. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin. Et pour cela, nous avons besoin donc de nourriture solide, la parole de Dieu, n'est-ce pas ? La parole de Dieu. Nous avons besoin de l'encre sûre et solide qu'est la parole de Dieu, et d'un enseignement qui soit entièrement fondé sur la parole de Dieu, non pas sur des traditions. Nous avons besoin de savoir ce que nous croyons, et ce que nous croyons doit venir de la parole de Dieu écrite. La parole de Dieu nous exhorte donc à la connaître, à nous nourrir d'elle, n'est-ce pas ? Car elle est la vérité. Et c'est elle qui nous fera grandir dans le Seigneur. Le critère, dit l'apôtre Paul, c'est la stature parfaite du Christ. Donc je disais tout à l'heure, la barre est mise très haut. La nature parfaite du Christ, Jésus-Christ était l'être spirituel par excellence, notre modèle à nous, n'est-ce pas ? C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est lui que nous devons regarder, c'est le Christ, c'est notre exemple à suivre. Cela veut dire que nous les chrétiens, nous devons ressembler à Jésus-Christ, notre Sauveur. En fait, l'objectif de l'Église, c'est de produire des hommes et des femmes qui reflètent le Christ dans leur vie de chaque jour, dans leur vie quotidienne. D'où la nécessité donc de le connaître de mieux en mieux. Et puis, il dit en versets 15 et 16, comment se manifeste la maturité chrétienne dans l'Église. Il dit au contraire, en vivant selon la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. La phrase qui a attiré mon attention, c'est surtout celle-ci, vivre dans l'amour, selon la vérité dans l'amour. Dans le texte originel, le texte grec, l'une des traductions qui pourrait être la plus proche, c'est être vrai dans l'amour. Ce n'est pas simplement dire la vérité, mais c'est être, vivre dans la vérité, vivre dans la vérité, demeurer en elle. La prophétie, oui, mais vivre dans la vérité. Et en même temps, le faire rempli d'amour, dit l'apôtre Paul. Rempli d'amour. Rempli d'amour pour le prochain, n'est-ce pas? Pour le prochain. Au chapitre 1er, verset 13, il explique que la parole de vérité, c'est l'évangile du Christ. Vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, dit-il. Le chrétien manifeste de la maturité lorsqu'il démontre dans sa vie, dans son caractère, dans sa conduite de chaque jour, qu'il est bien fondé dans le message de l'évangile tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu, qu'il est fondé dans la foi et dans son intimité avec Jésus-Christ. Il manifeste la maturité lorsqu'il reflète Christ pleinement dans sa vie et lorsqu'il rejette l'erreur, ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce qui est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais selon l'apôtre Paul, la maturité, c'est non seulement d'être attaché à la vérité de l'évangile, mais aussi de l'associer à l'amour. Et ça, parfois on l'oublie, n'est-ce pas? On l'oublie. Car les deux sont nécessaires à l'édification de l'Église. Ce n'est pas simplement la vérité qui est nécessaire, mais aussi l'amour qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de sacrifier l'un au détriment de l'autre. N'est-ce pas vrai que parfois on met l'accent sur l'amour au dépend de la vérité de la parole de Dieu? Ou alors on fait l'inverse, n'est-ce pas? On sacrifie l'amour au nom de la vérité. Et combien de fois, au lieu de critiquer l'erreur que quelqu'un a commise, on critique la personne qui l'a commise. Où est l'amour? Où est l'amour? Pour édifier le corps de Christ, nous devons être vrais, avoir pour boussole la vérité de l'Évangile, et en même temps, nous devons aimer le prochain. Car si la vérité de l'Évangile est fondamentale à la conscience de l'Église, l'apôtre Paul nous dit que l'amour est le lien de la perfection, n'est-ce pas? L'amour est le lien de la perfection, c'est un signe de maturité. Lorsque le chrétien est capable de contribuer avec amour et dans l'amour, soit par ses paroles, soit par sa conduite, par sa vie, par son service, à l'édification de tous, à l'édification de l'Église. L'apôtre Paul dit que c'est ainsi que nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. On n'a pas le temps ce matin, mais l'apôtre Paul va encore plus loin, n'est-ce pas, lorsqu'il dit « c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » Cela veut dire qu'un autre signe de maturité chrétienne, c'est lorsque tous les membres de l'Église, n'est-ce pas, exercent leurs dons variés et leurs services en cohésion, n'est-ce pas, unis les uns aux autres. Lorsqu'ils forment corps, lorsqu'ils forment équipe, n'est-ce pas, pour le bien du corps tout entier. Lorsque tout le corps est bien ordonné, parce que chaque membre fonctionne pour l'édification de tout le corps, lorsqu'il n'y a pas de jalousie entre les différents dons et services, mais une complémentarité, les liens du corps deviennent plus forts et l'Église grandit. La maturité s'exprime lorsque tout le corps est bien coordonné sous l'autorité de la tête, son chef, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà les objectifs que la parole de Dieu nous fixe en tant qu'Église de Jésus-Christ. Voilà la vision d'une Église digne de ce nom. Servir la société, servir le monde, édifier le corps de Christ et grandir en maturité, grandir dans la connaissance du Seigneur. Et tout ça dans l'unité, dans la vérité et dans l'amour. Que le Seigneur nous aide à faire notre cet idéal biblique de l'Église. Que le Seigneur nous aide à être ce peuple, comment on va le chanter, ce peuple qui chante, qui prie, mais aussi qui marche dans la lumière du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être ce peuple qui respecte sa parole et qui comprend quel est son rôle sur cette terre. Que le Seigneur nous aide à être ce peuple par qui sont bénies toutes les nations de la terre.